J'ai demandé à Frédéric Gros de présider à la dernière séance. Et avant d'introduire Frédéric Gros, qui n'a pas besoin d'introduction du reste, qu'on connaît tous, je voulais juste vous dire qu'à la conclusion de la journée d'études, il y a une réception au centre de l'Université de Chicago, à Paris, qui est dans le quartier. Il y a des explications comment y aller qui flottent dans la salle. C'est le 6 rue Thomas Mann qui est de l'autre côté en fait de la Bibliothèque nationale. Donc il faut traverser la Bibliothèque nationale, après Tolbiac c'est Thomas Mann. Et donc tout le monde est welcome, bienvenue. Bon, Frédéric Gros est philosophe, professeur de philosophie à l'Université de Paris Est Créteil. Bien sûr, éditeur de 4.
Bientôt 4.
4.
4 au mois de juin.
4 au mois de juin, de 4 des cours de Foucault, l'herméneutique du sujet, et le courage de la vérité, gouvernement de soi et les autres, et qui est en train de finir Subjectivité et vérité, qui va être dans les librairies le 15 mai. Ok, le 15 mai, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Bon, aussi auteur de plusieurs livres, dont dernièrement Le principe de sécurité. Bon, Frédéric.
Merci. Donc je vais. Merci à tous, merci pour l'accueil, merci pour cette invitation. Je passe tout de suite la parole à. On a défini un ordre de discours qui soit autre que l'ordre purement alphabétique. Donc je vais commencer par donner la parole à Arianna Sforcini qui enseigne la philosophie à l'université Paris-Est Créteil et qui prépare une thèse sous ma direction sur le problème du théâtre, la présence et le rôle du théâtre dans l'œuvre de Michel Foucault. Elle a écrit plusieurs articles et sous presse, on attend je crois pour le mois d'avril ou mai. Oui, un livre sur la question du corps chez Michel Foucault. Voilà, donc je passe la parole pour une dizaine de minutes.
Merci, et merci à Bernard de m'avoir invité à participer à cette belle journée. Je voudrais reprendre et questionner aujourd'hui avec vous une distinction que Foucault trace pour la première fois dans le cours de 1973, mais qu'il utilisera aussi par la suite, notamment dans Surveiller et punir, comme pièce essentielle de sa description de la société disciplinaire, c'est-à-dire le couple conceptuel société de spectacle et société de surveillance. Dans la leçon du 10 janvier 1973, Foucault cite un professeur de droit et réformateur des prisons allemandes du XIXe siècle, Nicolaus Julius, et il reprend en particulier un passage de son ouvrage de 1827, Les leçons sur les prisons, où Julius affirme que dans l'Antiquité classique, mais aussi dans l'Orient ancien, et je cite, « Le génie a conçu et s'est plu à décorer de tous les trésors de la magnificence humaine des édifices qui avaient pour but de rendre accessibles à une grande multitude d'hommes les spectacles et l'inspection d'un petit nombre d'objets, tels que des temples, des théâtres, des amphithéâtres, où l'on regardait couler les sangs des hommes et des animaux, etc. » Il revient au contraire au temps moderne, à l'influence toujours croissante de l'État et à son intervention de jour en jour plus profonde dans tous les détails et toutes les relations de la vie sociale, la construction et la distribution d'édifices destinés à surveiller en même temps une grande multitude d'hommes. En s'appropriant cette distinction, Foucault affirme dans le cours La société primitive que l'optique, c'est dans les manuscrits, que l'optique, c'est dans les résumés, pardon, de la société moderne, les diagrammes de visibilité de ces relations constitutives des pouvoirs passent par une architecture de théâtre inversé, c'est-à-dire une organisation de l'espace qui permet aux individus qui l'habitent ou y sont enfermés, non pas de voir, mais d'être vu. C'est le principe du panopticon, décrit par Bentham à la fin du XVIIIe siècle, et cité aussi par Julius dans son texte. Et effectivement, ce matin, Daniel Defer a souligné que le panopticon n'est pas une pièce centrale ou pas si importante que ça que dans le cours de la société primitive, c'est plus important dans Surveiller et punir. Et c'est vrai, en tant que forme esthétique et architecturale, mais je dirais que c'est présent même dans ces cours sous l'aspect de la surveillance, parce que l'esthétique et l'architecturale est pour Foucault une condition et un effet de politique d'un champ de relations de pouvoir historiquement déterminé. L'individu moderne est façonné par des regards entrecroisés portés quotidiennement sur lui, par une surveillance qui est sans cesse exercée. Donc l'architecture à étoiles typique des établissements disciplinaires, les prisons, les casernes, les hôpitaux, etc., avec un centre qui constitue un point de surveillance unique et rayonnant, est plus qu'un projet technique, c'est une forme sociale et une stratégie politique, une nouvelle physique du pouvoir, le paradigme de son fonctionnement à l'âge moderne. Et donc dans des sociétés comme celle de l'Antiquité, ou encore pour certains aspects, celle de la de souveraineté au Moyen-Âge et à l'âge classique, les problèmes étaient de mettre en lumière, de rendre éclatants les points bien définis de l'espace réel et symbolique qui correspondaient à l'affirmation du pouvoir. Donc ce sont les architectures spectaculaires des amphithéâtres, des cirques, des temples, de la cour, etc. La société spectacle rassemblait, dit Foucault dans Surveiller et punir, les corps sociaux autour de la vie publique, l'intensité des fêtes, la proximité sensuelle. Les spectacles, le rituel, n'est évidemment pas de simples loisirs, mais une façon pour la société de s'associer dans des corps uniques, de construire une collectivité. La société de surveillance se caractérise au contraire par des mécanismes inverses. Multiplier la prise capillaire de pouvoir à travers la possibilité donnée à un petit nombre, à la limite un seul, de voir et inspecter une multitude d'individus. C'est toujours dans Surveiller et punir, Foucault affirme « Nous sommes bien moins grecs que nous ne le croyons. Nous ne sommes ni sur le gradin ni sur la scène, mais dans la machine panoplique. Sous la surface des images, on investit les corps en profondeur. » La surveillance est en fait, et ça émerge clairement dans la société punitive encore plus que dans Surveiller et punir, est un moyen de brancher les individus sur les instruments de production, de transformer leur force de vie, leur temps de vie en force de travail. Contre certaines post-hégéliennes célèbres, Foucault refuse l'idée que l'homme est essentiellement travail. Le temps et la vie de l'homme sont, je cite, plaisir, discontinuité, fête, repos, besoin, instinct, hasard, violence, etc. Et c'est précisément cette énergie explosive, ce sont toujours des mots de Foucault, des existences concrètes, que les disciplines s'attachent à finaliser dans des tâches productives, monotones, à travers une disposition concrète de l'espace et du temps qui individualise, c'est-à-dire transforme les hommes, leur corps, en unité de cils et manipulables, et par là s'efforce de neutraliser toute velléité des résistances. Donc au corps des procédés disciplinaires, la surveillance constitue une sorte de grand œil du pouvoir auquel aucun détail ne peut échapper. Une instance supérieure de contrôle qui est d'autant plus efficace qu'elle est invisible et anonyme. Dans la société de surveillance, les sommets du pouvoir en effet se désindividualisent. À la limite, ils pourraient aussi être inoccupés. Il suffit à l'individu de savoir qu'il pourrait être vous pour que la contrainte s'exerce. C'est l'individu lui-même qui devient l'instrument de son propre assujettissement. Donc les Big Brother d'Orwell, Big Brother is watching you, n'est pas seulement une contre-utopie, dystopie, un cauchemar de la modernité, il en est le cœur secret, la tentation de constituer une société pyramidale où les effets maximaux des visibilités et donc des dressages s'exerce sur la masse à la base, tandis que le sommet est idéalement cet œil qui voit et domine tout, tout en étant lui-même soustrait au regard des autres. Or, il me semble que Foucault formule à travers cette dichotomie surveillance-spectacle une critique implicite de l'œuvre de Guy Debord, La société du spectacle, publiée en 1967. Et c'est aussi indiqué dans les notes de cours. Notre société, malgré les rôles politiques, économiques et sociaux évidents qui jouent les images, ne serait pas dominée par le spectacle de la marchandise, mais par un dispositif de surveillance qui a ses origines dans l'entremêlement des instances productives et punitives, surveillées et punies. Et pourtant, bien que situé dans un cadre philosophique très différent que je ne peux pas décrire ici, il me semble que l'analyse débordienne du spectacle recoupe les généalogies foucauldiennes de la modernité par au moins trois points. Une abstraction quantitative de la valeur du temps et de la vie, des salaires, comme substraction de la singularité qualitative de l'existence. Une individualisation, le fait de produire des individus, qui est un mécanisme de contrôle, est aussi une séparation, isolement de la force des corps singuliers et collectifs. Et une prédominance du voir, soit de la mise en examen de la spéculation scientifique et de la rationalité technique dans les mécanismes épistémiques et socio-économiques s'éliant aux disciplines. Plutôt que d'en rester alors en opposition nette de surveillance spectacle, je crois, c'est une hypothèse, qu'il serait intéressant de faire interférer des bords avec Foucault et de s'interroger sur ce qu'il y a ou ce qui reste, je sais pas, des spectaculaires dans la société disciplinaire elle-même. Dimension des mises en spectacle, ces dramatiques de pouvoir. La surveillance fonctionne, dit Foucault, comme un théâtre inversé, certes, mais il dit toujours théâtre. Un théâtre qui fait de chaque individu, non pas un corps unique de spectateur, mais l'élément d'une scène dont le public ainsi que le metteur en scène, pour ainsi dire, les pôles d'irradiation du pouvoir, sont de plus en plus indéfinis, anonymes et diffus. Donc, je me demande s'il y a une théâtralité propre aux disciplines, dont la généalogie, nous montre Foucault, ne remonte ni au rituel de la souveraineté, aux grandes cérémonies du pouvoir royal, ni aux espaces politiques de l'Antiquité, mais au procès des captures et gestion minutieuse des corps et des vies. Et puis, deuxième question possible, ce sont des pistes de recherche, sur un autre plan d'analyse, la généalogie foucauldienne de la surveillance est-elle encore efficace pour comprendre les formes et les relations de pouvoir sous-tendues par la surexposition médiatique actuelle, la virtualité des mises en scène en définie par la médium d'Internet, par exemple, la possibilité pour chacun de devenir à la fois spectateur et acteur d'un monde virtuel, exhibé, c'est Facebook, etc. Ce sont des suggestions, mais il me semble qu'il serait important de mettre l'histoire critique des disciplines que Foucault dans la société cognitive à l'épreuve de la prolifération des images et de l'existence spectacularisée propre au monde contemporain. Et ce n'était probablement pas le cas de 1973. Et les panoptismes en rapport avec les nouvelles architectures des réseaux numériques, comme Antoine Garapon nous a expliqué ce matin. Ces questions nous offrent peut-être donc des axes d'actualisation du cours que Foucault prononça il y a 40 ans. Merci.
Merci. Donc on peut prendre une ou deux questions, hein, comme on a fait pour la précédente séance. Guy, non? Oui, vas-y. Oui.
Je suis complètement d'accord, pris dans cette problématique, et je crois que l'une des questions les plus intéressantes de notre ère numérique aujourd'hui, c'est la manière dont ça négocie cette relation entre spectacle et surveillance, et la manière dont on est en même temps pas spectateur, mais on le devient. Par exemple, quand des vidéos deviennent viral, n'est-ce pas, et que tout le monde regarde la même vidéo, etc. Mais tout de même, dans nos propres endroits isolés, donc c'est vraiment cette tension entre spectacle et surveillance qui est intéressante aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment une piste de recherche importante.
Donc, mais par rapport justement à cette espèce de renversement qui a été montré, où on passe finalement de beaucoup de spectateurs pour peu de personnes vues, justement au contraire, c'est-à-dire un surveillant unique ou même virtuel, une multiplicité. Avec l'architecture Internet, on a une espèce de démultiplication où les spectateurs sont en même temps vus, voyants, etc. C'est-à-dire il y a une complexification même du modèle, une espèce de panoptisme démultiplié, éclaté, mutualisé, etc. Ce qui est intéressant C'est qu'au fond, enfin, c'est ce que tu disais, se manifester à travers un réseau numérique, c'est en même temps être vu voyant, de toute façon. C'est vraiment. Je ne sais pas si tu as.
Il y a une autre question.
Bon. Oui, je pensais au texte de Deleuze, Le prescripteur sur la société de contrôle, où effectivement il aborde cette question et il propose d'ailleurs qu'il y a une rupture avec le modèle panoptique. Mm-hmm. C'est au lieu de penser comme un panoptique complexifié, on passerait à un autre type de modèle, où d'ailleurs c'est plus du tout voir son être vu, c'est voir et être vu, etc. Donc on passerait à un système d'échange, qu'on revoit d'ailleurs dans les systèmes nouveaux de pénalité, avec les mesures de remplacement de la prison, avec les agents de probation, etc., où on est au contraire dans des systèmes continuels d'échange entre sujets, et plus du tout dans la panoptique, avec une tour centrale qui contrôle les gens emprisonnés. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a rupture avec le modèle panoptique?
Je ne peux pas répondre sur Deleuze, mais je pense que l'un des éléments les plus importants, à mon avis, de la distinction foucaldienne entre spectacle et surveillance, c'est que dans le spectacle comme il le conçoit, les individus peuvent. L'individu moderne n'existe pas, c'est-à-dire les individus peuvent constituer en tant que spectateurs des corps collectifs, des corps qui se rassemblent autour où il coule le sang autour de certains rituels, d'une proximité sensuelle, de Foucault. Et par contre, dans une société de surveillance, et je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense même pour la société actuelle, on reste dans des systèmes d'individualisation très, très, très fort. C'est ce que Bernard disait tout à l'heure. Oui, on est vous voyant, on est spectateur et acteur, mais on reste toujours enfermé dans notre chambre, devant notre ordinateur. Ce sont toujours des individus comme Foucault le conçoit.
Alors, est-ce qu'on vous lira avec plaisir dans quelques mois? Est-ce que dans votre problématique, vous avez un tiers-thème? Parce que ce qui est commun au théâtre et la surveillance, c'est la scène.
Oui.
Bon. Est-ce que pour vous, il importe de problématiser le moment où ça tombe?
La
scène.
Ben oui, c'est pas moi, c'est Foucault qui le dit.
Comment
dans un entretien.
Dire,
c'est dans un entretien de 1978. Au Japon, avec le philosophe Watanabe, ça s'appelle la scène de la philosophie, et il dit effectivement qu'il, comme souvent dans ses entretiens, et peut-être il exagère un petit peu, mais il dit que tout sa recherche philosophique peut se résumer dans une analyse des scènes de vérité, scènes dans un sens théâtral.
Alors ça chute pas là, lorsque vous dites. La philosophie même comme scène.
Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est pas rien, c'est-à-dire que le philosophe occupe une certaine place.
Ah ben, bien sûr.
Bon. Mais alors, le moment où tout ça tombe quand même, tellement ça devient insupportable, non?
Pourquoi?
Alors, la surveillance forever. Oui, vas-y.
Je dirais simplement en termes de pistes de recherche, etc., il y a un passage sur la page 222 où il fait une distinction entre surveillance et contrôle. Et donc, je crois que si vous voulez explorer un peu le Deleuze de contrôle avec la surveillance de Foucault, c'est là peut-être que ce serait un bon endroit de commencer.
Et pour reprendre, je suis d'accord avec l'idée que tout panoptisme mutualisé n'est plus du panoptisme, parce que la forme panoptique par excellence suppose une non-réciprocité du surveillant et du surveillé. Si vous mutualisez la surveillance, ça donne le contrôle, mais c'est plus la surveillance. Très bien, donc je vais passer à la deuxième intervention, donc Stéphane Sauger, qui est l'éditeur anglais des Annales, qui a traduit en anglais « Mal faire dire vrai, fonction de l'aveu », qui sont donc les conférences de Louvain qui ont été éditées par Bernard, et qui est professeur à American University of Paris. Voilà, je te laisse la parole.
Bon ben, merci beaucoup de cette invitation pour parler. En fait, je vais parler autour d'un sujet que sur lequel je travaille avec Bernard et avec d'autres cette année à l'Université de Chicago, et c'est autour de la question de l'État. Et en particulier la question de ce que Foucault peut nous porter pour nos réflexions sur l'État. Alors dans la situation du cours, Bernard nous rappelle qu'un des éléments de contexte clé pour lire la société punitive est comment penser le pouvoir politique après mai 68. En particulier, il y a la question de comment Foucault navigue, pour faire court, entre Althusser et on peut dire Aron, et en particulier une certaine vision de l'État chez les marxistes et les libéraux. Foucault, il semblerait, est convaincu qu'il faudrait laisser de côté le problème, à plusieurs reprises convaincu qu'il faudrait laisser de côté le problème de l'État, que ce n'était pas un point de départ efficace. Du coup, par moments, dans ce cours, ainsi que les cours qui ont suivi, il proposait régulièrement de sortir du problème de l'État, en particulier avec sa phrase, bien très souvent répété dans le cours de l'année suivante, ce qui implique méthodologiquement qu'on laisse de côté le problème de l'État. Ensuite, avec ces discussions du terme de gouvernementalité, il semblait qu'à force d'être confronté par la pauvreté des conceptions de l'État à l'époque, il a définitivement mis derrière comme un concept central de ce travail. La réception de Foucault, à la fois chez les marxistes et les libéraux, a largement suivi cette interprétation. Commençons avec Poulantzas en 79, qui insistait que Foucault's indisputable merits are therefore to be found in another region, c'est-à-dire dans ses réflexions sur l'État. Par la suite, du côté libéral, Michael Walzer insisterait que Foucault n'avait pas une théorie de l'État. Plus tard, Nicholas Rose cherchait à utiliser les travaux de Foucault pour, il dit, aller au-delà de l'État. Et peut-être le plus récemment, après les interventions, enfin, en quelque sorte indéniables de l'État depuis 2001, Agamben trouve chez Foucault une façon de penser « bare life », mais en l'attribuant à un état d'exception, c'est-à-dire en traçant justement un pouvoir exceptionnel qui semblerait être hors l'État. Donc aujourd'hui, il semble plus que raisonnable de se poser la question des cours auxquels Foucault a donné le titre « La société punitive », est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire sur l'État? Ou plus précisément, est-ce qu'il y a un concept de l'État chez Foucault dans la société punitive et au-delà? Ou, au contraire, est-ce que Foucault cherchait à aller au-delà dans le sens de Nicholas Rose? Autrement dit, comment comprendre son argument que, je cite, de page 234, il faut donc distinguer non seulement les systèmes de pouvoir des appareils d'État, mais même, de façon plus générale, les systèmes de pouvoir des structures politiques. Et comment comprendre une telle analyse à côté de sa phrase « Dans la société du XVIIIe siècle, tout le monde doit appartenir à l'État ». Je proposerai que c'est sans doute les deux, c'est-à-dire une pensée qui cherche à dépasser l'État comme concept central pour penser le pouvoir, mais qui, en cherchant à le dépasser, la réinvente, ou propose des pistes, en tout cas, de reformulation de l'État. À l'instar de l'œuvre de Michael Mann, dont The Sources of Social Power nous a offert, 17 ans plus tard, nous a offert des nouveaux outils analytiques sophistiqués pour penser l'État, tout en situant son analyse au niveau du pouvoir social, je voudrais suggérer que la société punitive et d'autres cours qui ont suivi nous donnent un bon point de départ pour commencer à repenser le concept de l'État et en priorité le rapport entre l'État et la société. Car les multiples références à l'État et tentatives de redéfinir son rôle, tout en le décentrant comme problématique pour comprendre le pouvoir, font de Foucault un des penseurs les plus originaux de l'État de la décennie après après ce moment de 1968. En effet, nous n'avons pas assez interrogé l'œuvre de Foucault à cet égard. De ce point de vue, et malgré sa réception, il est utile peut-être de reprendre la métaphore digestive avec laquelle il commence ce cours et qui reprendra pour parler de l'État dans les cours sur la biopolitique quelques années plus tard. C'est-à-dire, Foucault semble moins à la recherche de laisser entièrement de côté l'État que de le digérer, donc de le découper et de le travailler au lieu de la poser comme une masse informe ou une assiette froide au milieu de la table. pour ouvrir une telle analyse, je voudrais juste très rapidement, dans le, avec un caractère un peu de piste de recherche, comme a suggéré Bernard, un peu interroger les trois façons dont il... les trois manières dont il fait référence à l'État, en particulier l'utilisation de l'appareil de l'État, dans ce coin en particulier, mais qu'il va reprendre par la suite et qui est une façon de... location assez commun, et puis réfléchir très rapidement sur la question de nœud étatique et intra-étatique de forme de phrase qu'il utilise plus tard. Donc, tout d'abord, comme on a dit à plusieurs reprises pendant la journée, il y a une réponse à Althusser qui trame dans l'arrière-fond de ce cours. On sait que l'utilisation de ce terme le rattache au travail au terme de l'appareil de l'État ou appareil d'État, le rattache au travail d'Althusser, en particulier, comme le souligne Bernard dans la situation du cours, l'idéologie et appareil idéologique de l'État. Sa redéfinition de l'État ou des appareils d'État, parfois en pluriel, parfois en singulier, introduit au moins trois éléments essentiels. Très rapidement, je voudrais toucher ces questions. D'abord, redéfinir le pouvoir coercitif de l'État. Deuxièmement, penser l'État comme forme sociale. Et troisièmement, repenser le rapport entre le privé et, on peut dire le public, mais plus largement l'État. Dans sa tentative, d'abord pour le pouvoir coercitif, dans sa tentative de dépasser une certaine conception de pouvoir qu'il voit chez les marxistes, ou en tout cas son interprétation de l'analyse d'Althusser, il est amené à répondre à la théorie, à théorie de l'État. C'est-à-dire l'État comme reproduction, bien sûr, des forces introduites par des modes de production. Pour Foucault, l'État ne reproduit rien, bien sûr. Au contraire, je cite, page 224, « Le pouvoir n'est pas une manière de reconduire les rapports de production, mais de les constituer. » Au cœur de ce renversement est une tentative de repenser le pouvoir coercitif de l'État. Ici, on peut rappeler la conception weberienne, qui n'est pas forcément à la mode, qui ne sera vraiment... qui interviendra dans les sciences sociales en France, surtout à partir de la publication de Birnbaum et Badi quelques années plus tard, et puis aux États-Unis chez Scotchpole et Tilly, et dans le volume Bringing the State Back In. Mais là, dans cette conception, bien sûr, le pouvoir coercitif est central. Il y a chez Weber la fameuse définition du monopole de la violence légitime. Je cite, « Nous entendons par État, chez Weber, une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque, en tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. » Chez Althusser également, la capacité coercitive et répressive d'un État est aussi centrale, combinée bien sûr avec le pouvoir qui s'exprime par l'idéologie. Autant la société punitive est aussi construite sur la coercition, chez Foucault, la coercition doit être repensée. Car même si le pouvoir de l'État ne vient ni du monopole de la contrainte légitime, ni de ses capacités bureaucratiques, ni de la reconduction des rapports de production, il participe tout de même à un processus de production et de distribution de pouvoir. L'État participe donc, il n'a pas le monopole. Il est, à l'inverse, intégré dans un processus plus général de production de pouvoir. Il ne peut être le seul acteur. Du coup, je cite Foucault, « On a affaire à une coercition différente. C'est une coercition qui, je cite à nouveau, établit une connexion entre morale et pénalité. C'est ce qui a pour cible non pas seulement les infractions des individus, mais leur nature, leur caractère, la condition d'acceptabilité de la prison. C'est précisément le coercitif. Le pouvoir coercitif est donc justement ce qui garantit un certain consensus à travers une moralisation de la pénalité. La coercition se développe alors au sein de la société punitive, mais cela ne veut pas dire que l'État n'a pas sa place dans son élaboration et même sa production. Je cite une dernière fois sur cette question. Bref, on a affaire, explique Foucault, à quelque chose que j'appelle la société punitive, c'est-à-dire une société dans laquelle l'appareil d'État judiciaire joue, de plus, des fonctions correctives et pénitentiaires. Tel est le point d'aboutissement. L'État, donc, marque un aboutissement, en quelque sorte. Mais quel État ? C'est ici qu'on est amené à repenser l'État comme une forme sociale. Penser l'appareil d'État veut dire, dans la société punitive, repenser le rapport entre la société et l'État. Je cite Foucault, « Le pouvoir politique est toujours localisé à l'intérieur d'une société, dans un certain nombre d'éléments, essentiellement dans les appareils d'État. » À nouveau, Foucault laisse la place à l'État en même temps qu'il veut situer le pouvoir politique ailleurs. Plus loin, donc, il cherche à préciser son propos. Il me semble, je cite, « plutôt que l'appareil d'État est une forme concentrée ou encore une structure d'appui d'un système de pouvoir qui va bien au-delà et bien plus profond. Ce qui fait que, je continue la citation, « pratiquement, ni le contrôle, ni la destruction de l'appareil d'État ne peuvent suffire à transformer ou à faire disparaître un certain type de pouvoir, celui dans lequel il a fonctionné. » C'est la page 233. L'État est donc enveloppé dans un système de pouvoir qui est plus profond. Cela veut dire que les appareils du pouvoir ne sont jamais possédés et ne peuvent l'être. Foucault cherche dans la société punitive à identifier le pouvoir à travers la société et non pas dans un État réfractaire qui agit sur la société de l'extérieur. On est peut-être à ce niveau-là, pas très loin de l'analyse du lieu vide chez Lefort, qui cherchait également à resituer le pouvoir politique là où on ne pouvait pas le prendre ou l'incarner. La société punitive se développe en rapport avec les appareils d'État, mais ne peut être résumée par ceci. Mais de là, il faut poser la question de la spécificité de l'État dans ce processus plus général. C'est-à-dire, est-ce que l'État a un rôle privilégié à jouer au sein de ce système de pouvoir? Il semblerait que si, d'au moins deux façons. Et là, je passerai très rapidement. Tout d'abord, l'État est producteur d'une certaine unité. Et là, je prendrai une citation. La question qu'il faut poser alors est, dit Foucault, pourquoi ce processus lent de décalage vers l'appareil d'État s'est-il accéléré et pourquoi a-t-on abouti finalement à ce système unifié? Il propose qu'il faille regarder dans ce sens, c'est autour de la question de l'illégalisme populaire. Et dans ce sens, il propose une histoire que l'on pourrait appeler une histoire culturelle de l'État. D'ailleurs, la référence à E.P. Thompson dans la situation du cours, j'ai trouvé ça très pertinent à cette question-là. Il faudrait aussi, dans cette question de l'aboutissement et de l'appareil d'État, repenser la place de la Révolution française, que je trouve que dans ce texte a une place... un peu plus importante peut-être que dans d'autres cours. La Révolution française, pareil, a vraiment un peu revient très régulièrement dans ce texte. Deuxièmement, l'État participe à la production des formes de pouvoir avec d'autres instances. Le problème n'est pas tellement de savoir si ces autres instances de pouvoir répètent la structure de l'État, je cite Foucault, peu importe au fond si la famille reproduit l'État ou si c'est l'inverse, la famille et l'État fonctionnent l'un par rapport à l'autre en s'appuyant l'un sur l'autre. L'appareil de l'État seul n'est pas extérieur à la société. Ou comme il explique ailleurs, c'est parce qu'il y avait des micro-instances de pouvoir dans la société que quelque chose comme ce nouvel appareil d'État a pu effectivement fonctionner. Page 233. L'État est donc coercitif dans sa capacité d'assurer un rapport entre moralité et pénalité, en même temps qu'il participe avec d'autres micro-instances du pouvoir pour établir une société punitive. Mais tout cela nécessite aussi, per forza, que l'on repense le rapport entre l'État et la sphère privée, car l'État n'est plus cloisonné dans sa sphère à part. L'opposition entre l'État et le privé, si chère à la conception libérale, est aussi fortement reconsidérée chez Foucault. Et là, je vais essayer de rester dans mes temps. J'ai déjà dépassé de 2-3 minutes. Donc, je cite tout simplement sur la page 215, « Tous ces établissements qui relèvent de l'État directement ou non renvoient malgré tout toujours à des appareils d'État, bien qu'ils ne soient pas en eux-mêmes des appareils d'État, mais plutôt des relais multiplicateurs de pouvoir à l'intérieur d'une société où la structure étatique reste la condition de fonctionnement de ces institutions. » Là, à nouveau, on voit le rôle qu'a l'État. Le rôle n'a pas exactement la même fonction que d'autres de ces relais multiplicateurs. À nouveau, on voit que Foucault voit dans l'État une condition de fonctionnement, tout en suggérant que l'État est loin d'être le seul lieu de pouvoir. C'est précisément sur cette voie pragmatique que Foucault va développer un certain nombre de ses idées les plus intéressantes sur l'État. Rapidement, les limites de la notion de l'appareil de l'État l'amènent donc à élargir le vocabulaire pour penser l'État comme forme sociale. À différentes reprises, il utilise les termes nœud étatique et intra-étatique. Nœud étatique, nœud bien sûr, c'est quelque chose qu'on va trouver souvent chez Foucault, mais il oppose, il cherche à une reprise de juxtaposer spécifiquement un appareil d'État et un nœud étatique. Et la question que je pose, c'est est-ce que le concept de nœud, qu'est-ce que ce concept de nœud nous offre? On peut voir par exemple que la notion de nœud défait l'étanchéité de l'appareil pour créer un concept sans doute plus poreux. Sur la question de l'intra-étatique, je pense qu'il y aurait un parallèle à faire avec ce qui va devenir essentiel dans les sciences sociales, surtout chez Scotchboard, et c'est la question de l'autonomie de l'État. Foucault utilise plutôt le concept intra-étatique, que je pense aurait quelques apports à ce niveau-là aussi. Pour résumer très rapidement, il me semble que nous trouvons dans ces cours des traces d'une tentative de repenser l'État qui introduit un certain nombre de reformulations. Ces reformulations ont été au centre des travaux sur l'État dans les décennies qui ont suivi. En particulier, les tentatives de dépasser une conception libérale et marxiste de l'État et, du coup, par la suite, la tentative de faire revenir Weber comme une nouvelle conception qui était en partie une réponse aux mêmes choses auxquelles Foucault répondait lui-même. C'est-à-dire décentrer l'État du propos et du même coup reconsidérer le rapport entre l'État et société. Dans ce sens, il y a peut-être une dernière citation qui mérite d'être lue. L'État se voit requis de devenir l'instrument de moralisation de ses classes, a écrit Foucault. On ne peut pas s'empêcher de voir un lien évident avec l'observation que fera Bourdieu presque 20 ans plus tard dans ses cours au sein de la même institution sur l'État. L'État, il dit, est ce qui fonde l'intégration morale du monde social. Merci.
Très bien, là aussi, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui, non? Alors j'en aurais une. Est-ce que précisément, puisqu'on a tenté de réfléchir ensemble toute la journée sur le rapport entre surveiller et punir et la société punitive, est-ce que surveiller et punir n'organise pas une espèce de décrochage théorique par rapport à cette importance de l'État, c'est-à-dire où le disciplinaire prend une espèce d'autonomie et où la prison se réfléchit finalement comme produit du disciplinaire plus que suspendu à l'État. Ce serait aussi une piste de... Dans surveiller et punir, l'État comme tel est beaucoup moins présent.
Cette hypothèse est confirmée par la volonté de savoir, le fameux paragraphe sur le pouvoir.
Oui. C'est dans le manuscrit où Foucault parle de l'État grand pénitentiaire. Je ne sais pas si
oui.
Tu te souviens de ça, cette
oui.
Comme grand pénitentiaire. Que vous avez. Comme grand pénitentiaire, c'est une formule dont je pense que oui, qu'elle aurait été moins possible par la suite. Non ? Je ne sais pas. C'est une supposition. En vous écoutant que je pose la question.
Je pense que. Cette lecture de surveiller et punir, c'est en partie ce qui a nourri l'idée que Foucault avait très peu à dire sur l'État et qu'il allait finalement essayer de situer la question du pouvoir ailleurs. Je pense que la publication des cours, Foucault sur l'État, c'est un des domaines où la réflexion de Foucault sur l'État. C'est particulièrement important pour comprendre ce qu'il voulait dire autour de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il voulait écarter la question de l'État dans ses écrits, les livres. Mais il me semble qu'on voit dans ses cours que ça revient sans cesse. Et qu'en fait, on peut relire comme l'a proposé Sacha Raoult tout à l'heure, on peut relire Surveiller et punir, et il y a d'un côté, on peut dire, ah bon, ben, il s'est rendu compte que ça, c'était pas ce qu'il voulait faire, aussi bien en Surveiller et punir ou plus tard en Volonté de savoir. Ou on peut se dire, ben, il y a toute une série de choses qui sont qu'en fait, il ne met pas finalement dans le manuscrit, mais qui sont là, et on peut les lire, on peut lire finalement Surveiller et punir tout à fait différemment.
Tout à fait.
Après, c'est une question de, il ne faut pas.
Okay. Oui. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Peut-être que c'était peut-être une manière naïve. J'avais l'impression que chez Foucault, on évitait de poser la question de l'État de la même manière qu'on évite de poser la question de la folie, parce que la folie n'existe pas, ou que je trouvais ça très fécond. D'ailleurs, moi, je... Oui, non, mais... Enfin, c'est-à-dire, le...
Il n'a pas dit ça.
Non, non, mais...
C'est important, quand même.
Bon, pardon, ok, mais j'arrête.
Non, mais si la citation est inexacte, c'est jamais...
Vous avez entièrement raison. C'est tout à fait la même.
Sur ce point, bon. Moi, je crois que c'est un effet du courage de Foucault.
Il l'a dit,
la folie n'existe pas. Non, mais c'est pas grave. Il n'est pas ça qui se joue.
La non-centration du travail de Foucault sur l'État, c'est un effet de son courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme vous savez, il a posé le pouvoir comme étant des sens relationnels. C'est-à-dire qu'on est au moins deux. Et lui, il y allait, quoi, y compris au carton. Bon, y compris avec les forces de l'ordre. Et il pouvait se faire éclater la tête aussi. Bon, hein, on a des photos qui montrent ça. Hein, pour le prétexte, c'était les colis de Noël pour les détenus. Voilà, il a été très courageux, il était tremblant. Quelqu'un comme Buxman témoigne qu'il était tremblant dans certaines manifestations, et le rapport et sa théorie du pouvoir, effectivement, elle est physique, c'est-à-dire que cette microphysique du pouvoir, c'est ce dans quoi lui était pris. Alors les beaux objets, un peu à distance, dans une relation de connaissance sujet-objet, oui, c'était pas son affaire. Il a pu dire les mots et les choses, oui, c'est un excursus que j'ai fait comme ça, ben, c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais disons qu'il a bien dit, supposons que la folie n'existe pas. Donc, Michael, tu ne veux pas continuer? Ok, c'est bon.
Très bien, je vais donc tout de suite donner la parole à Pascal Beauvais, qui est professeur de droit pénal à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et qui co-dirige le Centre de droit pénal et de criminologie.
Voilà, donc je vous laisse avec
merci
plaisir
beaucoup.
La parole.
Merci beaucoup d'ailleurs, d'abord Bernard, pour cette invitation. Merci beaucoup Bernard de m'avoir permis de lire quasiment en avant-première ce nouveau cours. Et puis bravo pour ta situation du cours qui est absolument extraordinaire et qui est une explication vraiment, que peut-on dire après, de ce cours. Vraiment, c'est absolument remarquable. Alors, comme Pierrette Poncela ce matin, j'ai un peu une double lecture de ce cours. J'ai une lecture personnelle, intellectuelle, qui m'a ébloui par, comme souvent Foucault, par sa puissance du dévoilement du réel, par sa beauté esthétique, etc. Mais j'ai une lecture ici plutôt comme professeur de droit pénal, ce qui pose d'abord des questions peut-être préalables de méthodologie et de champ disciplinaire. Parce qu'effectivement, il est vrai que Foucault n'a pas une vision, par rapport aux juristes classiques, n'a pas une vision très valorisante du droit. Qui est d'abord conçu comme, alors on le voit bien dans la société punitive, hein, comme une des formes du pouvoir social et politique de la bourgeoisie. Le droit est au fond, dans une vision très, très marxiste, relève de la superstructure. Le droit est d'abord subordonné à un mode de production matériel. Il vise à maintenir ou reproduire un mode de reproduction, de production pardon, capitaliste. Donc de ce point de vue-là, le droit est... Qu'une forme de cette production capitaliste. En outre, en considérant que le pouvoir n'est pas dans une institution, n'est pas dans les institutions, mais se situe dans des multiples rapports, cela relativise le rôle régulateur, central, unificateur du droit. Bref, nous sommes très loin de la vision classique du juriste. La règle de droit ici n'exprime pas la volonté d'un gouvernement, d'un pouvoir politique central représentant l'intérêt général, mais le droit est le produit d'une lutte stratégique, c'est l'expression d'une forme de guerre. Donc c'est vrai qu'on est très loin de ce qui est enseigné classiquement dans les facultés de droit et de ce qui est fait comme travail de recherche par une majorité de juristes qui, au fond, enseignent le droit dans une optique assez doctrinale et dogmatique, qui vise à d'abord décrire, donner une cohérence à l'infinité des normes, à l'infinité des sentences qui sont produites quotidiennement. C'est donc une approche évidemment très formelle qui prend ce qui est dit par le droit comme acquis. Et c'est aussi une approche, j'allais dire, instrumentale, c'est-à-dire bon, la connaissance du droit qui est ainsi élaborée par la majorité des juristes universitaires, elle vise à faire marcher le système, hein, c'est-à-dire que le législateur légifère en s'appuyant sur les connaissances mises en œuvre par les juristes universitaires, le juge décide en s'appuyant sur ses connaissances, l'avocat défend en s'appuyant sur ses connaissances, bref, et le professeur apprend ses connaissances à tous les futurs juristes. Bref, on est très loin des logiques décrites et du savoir développé par Foucault. Mais évidemment, et fort heureusement, il existe une recherche sur le droit menée par des juristes, mais aussi par des sociologues, qui va au-delà de ce travail doctrinal interne au système et au service du système, une recherche qui s'interroge sur les forces créatrices du droit, sur les effets constitutifs du droit, sur les objets et catégories sociales, sur le droit comme expression d'un contrôle d'un groupe social ou deux groupes sociaux sur d'autres. Le droit, on l'a vu tout à l'heure, comme instrument de lutte, le droit comme instance de production d'une vérité, le droit comme instrument de normalisation et de moralisation. Bref, évidemment, les juristes se sont intéressés à cela. Et c'est cette recherche juridique-là qui intègre les sciences sociales, qui est interdisciplinaire, qui au fond, peut s'alimenter, peut être intéressée par l'œuvre de Foucault et notamment par la société punitive qui effectivement contient de très nombreux développements sur le droit pénal, les institutions pénales. Alors des développements qui sont aussi bien sur des dispositifs pénaux, des micro-dispositifs qui sont analysés, mais aussi sur des évolutions de long terme du droit pénal. Et il y a par exemple le recours à l'histoire du droit pénal, mais tel que là, on l'enseigne traditionnellement dans les cours des facultés de droit, c'est-à-dire l'apparition de l'action publique et du procès pénal comme portant sur une atteinte à l'ordre social enclenchée par une action publique de défense sociale, ce mouvement qui est très important dans l'analyse que fait Foucault du système pénal, eh bien, effectivement, renvoie à beaucoup de réflexion juridique traditionnelle sur le droit pénal. Alors, évidemment, la logique de Foucault est décalée par rapport à celle des juristes, par rapport aux chercheurs en droit, mais comme il le dit lui-même, il analyse les dispositifs du droit pénal comme des révélateurs comme des révélateurs d'une idéologie, de valeurs, d'objectifs d'objectifs et d'effets que le pouvoir politique chercherait à donner aux normes, mais, il le dit dès le départ, comme des analyseurs des rapports de pouvoir. Alors, il y a beaucoup de choses, en réalité, moi, dans ce cours, qui font écho aux évolutions contemporaines du droit pénal et qui peuvent parfaitement constituer des pistes de recherche et des outils d'analyse du droit pénal pour un chercheur en droit pénal qui s'intéresserait effectivement aux sciences sociales et au contexte et aux effets du droit pénal sur la société. On peut en prendre plusieurs, mais on peut prendre de nombreux exemples d'idées qui peuvent parfaitement être des cadres d'analyse de dispositifs pénaux contemporains. Alors la première, c'est celle qui évidemment prend le criminel comme ennemi social, comme individu opposé à la totalité de la société en tant que tel. Foucault décrit le processus juridique qui consiste à décrire, à juger, à exclure le criminel comme ennemi public. Alors évidemment ce processus a été nuancé par Foucault, mais par exemple cette idée-là peut avoir une fonction explicative dans une évolution très importante du droit pénal contemporain, qui est l'introduction en 2008 de la rétention de sûreté et de ce dispositif de détention pénitentiaire par lequel, qui ne repose plus du tout sur la culpabilité et la commission d'une infraction, mais sur le constat de la dangerosité de la personne détenue. La personne est privée de liberté et détenue, non pas au titre du droit pénal, mais au titre d'une dangerosité évalué dans un processus d'expertise d'ailleurs, et où, la, où effectivement une forme de vérité sur l'individu est délivrée. L'analyse aussi du criminel ennemi fait parfaitement écho avec l'émergence de ce qu'on a appelé le droit pénal de l'ennemi, et ce qui est intéressant, c'est de voir que la doctrine pénale, alors c'est une doctrine pénale allemande, a assume même une théorie du droit pénal de l'ennemi à propos du terrorisme, qui permet de justifier des régimes dérogatoires, des régimes d'exception, parce que effectivement le terroriste n'est plus dans la société, s'oppose à la société, à son existence même, et de ce fait, cela justifie une exclusion, même si le concept d'exclusion pour lui est évidemment pas est trop général. Autre idée que j'ai trouvée particulièrement intéressante et puis qui est aussi illustre et permet de comprendre de nombreuses évolutions actuelles du droit pénal, c'est la moralité comme fondement du système pénal qu'il décrit. Foucault décrit à la fin du XVIIIe siècle le mouvement de jonction du moral, de la morale et du pénal, ce processus de, comme il dit, de surcodification pénale, éthico-pénale, qui permet tout un ensemble de contrôles sur la vie quotidienne. Il ajoute d'ailleurs que le développement du capitalisme, dans le cadre du développement du capitalisme, ce contrôle s'applique progressivement aux seules classes populaires. Cette idée d'ailleurs se combine avec une autre qui est dans son cours. Les lois sociales sont faites par des gens auxquels elles ne sont pas destinées, mais pourraient être appliquées à ceux qui ne les ont pas faites. Une telle analyse permet par exemple de donner des clés de compréhension d'une loi dont on n'a pas tant parlé que ça, la loi de 2003 sur la sécurité intérieure, qui crée de multiples incriminations de contrôle social, de moralisation de l'espace public, d'hygiène sociale. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, et c'était le ministre qui l'avait justifié comme cela, dans un autre cadre, l'incrimination anti-glandouille, c'est-à-dire la loi qui incrimine, l'incrimination du stationnement dans le hall d'immeuble. On peut trouver aussi l'incrimination dans la même loi de la mendicité agressive, qui est la forme contemporaine des réglementations anti-vagabondage et gens du voyage. La loi de 2003 incrimine aussi le racolage passif, qui est justifié alors qui est justifié vraiment formellement par le législateur comme une incrimination qui doit permettre la tranquillité publique sur la voie publique et la protection des bonnes mœurs sur la voie publique. Et puis il y en a une qui a été encore moins commentée, c'est l'incrimination des nuisances sonores et odorantes de certains établissements de vente de sandwichs, pizza, etc. à emporter. Et alors il est très intéressant de lire les travaux préparatoires de cette loi par le législateur, de cette incrimination par le législateur, qui dit ces petites échoppes de vente à emporter de crêpes, de pizza, etc. Sont bruyantes, font venir une clientèle extérieure au quartier. Bref, crée un trouble à la tranquillité, ça entraîne des embouteillages dans la rue, et bref, cela nuit au voisinage et aux personnes qui habitent ici. Donc voilà toutes sortes de petites incriminations qui se sont développées et qui sont véritablement des incriminations de contrôle social. Enfin, évidemment, l'idée que la pénalité relève d'une guerre civile, d'une guerre des riches contre les pauvres, c'est ce schéma très marxiste. Et que le droit pénal est, d'une certaine manière, l'instrument de l'appareil d'État bourgeois pour assurer sa domination, que le disait Étienne Balibar ce matin, cette analyse est parfaitement confirmée par les travaux pénalistes ou criminologues, comme Edwin Sutherland, sur la différenciation, le traitement différentiel des illégalismes, que l'on retrouve aujourd'hui dans des dispositifs très précis, dans des dispositifs juridiques très précis, et ça donne une clé d'explication, ou en tout cas, ça ne veut pas dire que ces dispositifs ont été volontairement créés pour cela, mais ils produisent en tout cas ce résultat-là. Je pense par exemple, tout simplement, en droit pénal de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre la délinquance écologique, le législateur a généralisé le recours à la transaction, c'est-à-dire que les gros pollueurs, en cas de délit, environnementales peuvent parfaitement passer une transaction, ce qui n'est pas le cas dans de très nombreux autres domaines du droit commun, peuvent passer une transaction avec le ministère public. Donc là, il y a une capacité de négociation des gros cabinets. Donc là, il y a un effet, par exemple, de traitement différentiel des illégalismes qui est évident. on peut aussi peut-être mentionner les critères qui justifient l'individualisation de la peine. Parmi les critères d'individualisation de la peine, on trouve évidemment les circonstances, la personnalité de l'auteur, les ressources et la capacité à se réinsérer. Alors il est évident que pour les individus qui ont un travail, des diplômes, etc., la capacité à se réinsérer est bien plus grande et peut justifier des formes de traitement là aussi différentiels et sociaux. Alors c'est un dispositif tout à fait technique, mais qui permet là aussi de produire des effets inégalitaires et qui ensuite peuvent s'insérer assez bien dans les logiques, dans les analyses de Foucault. Bref, bon, ce sont des exemples parmi de nombreux autres exemples, hein, mais qu'on pourrait développer, mais on n'a pas le temps. Mais c'est vrai que c'est évidemment pour un pénaliste qui analyse le droit, les dispositifs juridiques, il y a énormément d'intuitions, d'analyses, d'hypothèses qui sont aujourd'hui tout à fait stimulantes pour continuer à analyser de manière un peu plus approfondie ces dispositifs.
Merci beaucoup. Donc là encore, je vais vous demander si vous avez des questions. Oui.
Merci beaucoup pour cet exposé illustratif des formes contemporaines que peuvent prendre les cours de Foucault. Moi, je suis toujours embarrassé à savoir s'il y a une densification ou au contraire un assouplissement des dispositifs pénaux, et en particulier des dispositifs pénaux qui ciblent les couches les plus basses de la société. La loi sur la sécurité intérieure, comme tu le sais, l'une de ses caractéristiques, d'ailleurs les lois Sarkozy de manière générale, l'une de leurs caractéristiques, c'est que d'un côté, elles ne sont pas appliquées, exemple, le rassemblement dans les hauts immeubles, exemple, le rappelage passif, pas poursuivi, donc le refus de poursuivre en disant écoutez, rentrez chez vous. Ou bien, les policiers, le système pénal n'en avait en réalité pas besoin. Par exemple, le bailleur peut appeler, puis le rappelage passif, un jeu d'écriture, ça se transforme en rappelage actif. Et donc, quelle est la fonction de la loi dans un contexte pareil? Et quelle est l'articulation entre la loi pénale et, au fond, cette chaîne assez désordonnée de la coercition, en particulier lorsqu'elle s'exerce sur la voie publique? C'est vraiment une question importante, et surtout importante pour la critique, parce que pour la contestation politique de ces lois-là, parce qu'on est toujours tenté de dire « Regardez, un pas a été franchi. » Et puis en même temps, on se dit « Ouais, bon, il a été franchi, mais on sait que ce ne sera pas appliqué. » Et alors, comment formuler la critique vis-à-vis de ça? Je pense que ça, c'est assez crucial. Par ailleurs, essayons de voir ce qui est sorti du code pénal. Le vagabondage est sorti. Je ne pense pas que la mendicité agressive le faire rentrer à nouveau. L'avortement est sorti. Et de manière générale, les infractions de mœurs. Il y a un petit bouquin très intéressant qui vient d'être publié d'un certain Didier, Les alinéas du placard, très beau titre, très beau bouquin, sur toutes les luttes, justement, dans lesquelles intervient Michel Foucault, pour l'abrogation de ce qu'on appelle les délits d'homosexualité, en circonstance aggravante d'un rapport sexuel avec des mineurs. Bon. Et Michel Foucault est d'ailleurs interrogé par diverses commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. En réalité, lorsque Michel Foucault écrit dans les années 70, la vie individuelle, les existences individuelles, et en particulier les existences individuelles des femmes, par le biais de l'avortement, sont beaucoup plus marqués par la pénalité que le sont d'autres existences individuelles. Alors évidemment, quand je dis nous, quand je dis les femmes, quand je dis les pauvres, tout ça doit être sans doute à des géographies bien particulières. Comment penser le mouvement pénal. Au fond, on se dit d'un côté, de toute éternité, la fonction de, ou la production du système pénal, c'est la répression des basses couches de la société. Et d'un autre côté, on sent bien qu'il y a des évolutions qui ne sont pas entièrement réductibles à l'affrontement entre les précédents et les non-précédents. Ça, c'est quelque chose...
Sur les infractions créées par la loi de mars 2003, certes, elles ne sont pas poursuivies, elles ne sont pas condamnées, mais elles donnent la possibilité aux forces de police d'intervenir. Donc il y a quand même un droit à contrôle social, et il y a quand même aussi un effet, c'est-à-dire qu'elles ont même été votées implicitement aussi pour ça, c'est-à-dire c'est la possibilité d'interpeller, c'est-à-dire que sur justement, ils le disent même dans le projet de loi sur le stationnement dans les halls d'immeubles, en fait c'est un fondement juridique pas pour entraîner une peine et une condamnation pénale, mais pour pouvoir donner une base légale à l'intervention des forces de police.
On appelle du bailleur ou du propriétaire, est-ce qu'il donne une marge très faible, parce que de toute façon, les forces de police pourraient rentrer avant, oui. Et même par le décret passé par Payan quelques mois avant. En gros, en 2004, moi j'étais avec les policiers en observation, si tu veux, et les types qui stationnaient, s'ils voulaient les avoir, ils procédaient autrement. Et là, d'ailleurs, on a toujours évoqué l'outrage, la provocation tout à l'heure. Voilà ce genre de délit, ce genre d'incrimination qui accueille à bras ouverts et de toute éternité ce genre de.
Mais ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir des infractions créées pour un droit à intervenir, pour un droit de regard, pour un contrôle, en fait. Pas nécessairement pour des condamnations. Ça ouvre juridiquement, ça donne une base juridique à l'intervention et au droit de regard. Et,
c'est subtil de comprendre c'est quoi l'effet exactement de ces normes dans le système pénal. Oui. L'exemple qui est intéressant, celui-là dont on a des données particulières sur ça, c'est par exemple Pelle Planchet. C'est compliqué de savoir ce que ça a fait, Pelle Planchet. Parce que Pelle Planchet, donc, qui met un minimum pour les récidivistes, c'était assorti de mais le juge peut toujours dire la garantie exceptionnelle de réinsertion, etc. Du coup, il y a des fois où on a mesuré, mais il y a des juridictions où ils appliquent les garanties une fois sur deux, ils appliquent exceptionnellement 80% des cas, etc. Mais en même temps, ça ne veut pas non plus dire que Pelle Planchet ne font rien, parce que ce qu'on a pu observer, quand on voit les comparutions immédiates, etc., c'est que souvent elles ne servent pas de plancher, souvent elles peuvent servir de référent, d'exemple. Elles servent à ce que le parquetier ait plus besoin de faire la démonstration, de dire c'est pour ça qu'il faut croire dans le pénal, et là il faut rentrer, parce que c'est ça la peine plancher. Et donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, rien pour les peines planchées, il y a beaucoup de retours empiriques et beaucoup de subtilité pour comprendre exactement quel genre, et là encore on n'a pas conclure, quel genre de répercussion ça peut avoir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
C'est plus une remarque sur cette question de la mise en évidence empirique. À peu près quand et la période de Vincennes, Nicolas Arpin, qui était aux États-Unis, est appelé à faire un cours de sociologie empirique qui va le conduire à emmener les étudiants du département de sociologie dans les tribunaux pour faire l'observation des audiences. Il en tirera 7 ans plus tard. Et qui montre justement comment sont appliquées les peines de manière différentielle selon à la fois l'origine nationale, l'âge et l'origine sociale des prévenus. Et je ne sais pas, alors ça a eu un grand écho dans le syndicat de magistrature, c'est libre, c'est pas exactement Foucault l'a lu. En tout cas, on est aussi dans ce contexte où à Vincennes, à la période où Foucault se prend son cours et il y a cette réflexion sur empiriquement comment la justice.
L'heure à laquelle on passe, c'est la fiche. Le métier qu'on exerce, c'est l'heure à laquelle on passe le jugement. Il y a absolument une différence de jugement.
C'est intéressant de voir que une des grosses recherches là, qui vient de sortir sur ces questions-là, vous pouvez la voir dans l'actualité juridique pénale, justement, la preuve que donc, le monde judiciaire, le monde des juristes sont en dialogue avec la recherche sociologique. C'est une recherche qui est donnée par Jean Danet. C'est un des avocats qui, dans les années 70, se montre intéressant de voir comment les trajectoires des uns et des autres, à un moment, recroisent Foucault et puis
Oui, vous aviez une question ?
Ouais,
devant aussi.
Avant,
oui. Allez-y, et ensuite...
sociale en réalité, toutes ces demandes de présence dans les immeubles et tout ça, pour voir au départ comment ça passe. C'est pas de juriste au départ, c'est des demandes sociales auprès de députés, ça vient de moi. Mais il faudrait comparer ça avec l'histoire de lettres de cachet.
Oui.
Ouais. Donc sur les listes de recherche que tu évoquais, les autres listes, il y a les autres qui peuvent être intéressants pour le droit français, pour l'évolution récente du droit français. C'est que c'est vrai qu'on a le réflexe souvent de voir tout un tas de réformes en disant regardez l'impact que ça a, c'est qu'à la fin bah, ça aggrave la situation des pauvres, ça améliore la situation des riches, dans la façon dont s'applique le système pénal, les garanties d'augmentation, garanties exceptionnelles de réinsertion, c'est encore un bon exemple de ça, droit à l'environnement, etc. Et le réflexe qu'on a, c'est de dire bon, on ne dit pas que c'est volontaire ou pas, mais enfin c'est comme ça. Et là, ce que nous dit Foucault en c'est qu'il faut chercher si tout ce qu'il y a de dit sur ça, il faut chercher si dans les interviews, si dans le discours à l'Assemblée nationale, etc., si en creusant, on ne trouve pas le même genre de choses, le même genre d'exemple que Bernard a montré tout à l'heure, du collaborateur de Nixon, parce qu'en tout cas, par exemple, sur l'islam, il y a ça, il n'y a pas ça dans la loi, mais il y a ça dans les discours politiques, dans les interviews, il y a des lapsus, il y a des choses, d'un coup, on voit qu'on est dans une forme de guerre entre personnes, et pas simplement de grandes théories que les gens respectent. Sur d'autres choses aussi, je me demande s'il n'y a pas justement une belle piste de recherche sur tout ce qu'il y a à côté dans la production de ces règles-là, sur la perception des gens de à qui ça va s'appliquer.
Oui.
Il y a aussi, on parle de guerre, donc, mais c'est, avec le pénal, c'est aussi la guerre à l'intérieur du personnel politique, puisqu'on sait bien que l'ensemble de ces lois, depuis avant même Sarkozy, sont pris dans des considérations électoralistes. Donc, c'est vrai ce que disait Daniel Defer, hein, ne pas là-bas, c'est porté par des revendications, relayées par des députés, donc des hommes politiques, et ensuite, tout ça est pris dans des intérêts, d'où effectivement la pertinence évidemment des analyses foucauldiennes, c'est des intérêts multiples qui se rencontrent. Et donc je crois que ça, que le pénal soit devenu un enjeu électoraliste, doit aussi être pris en compte lorsque on se demande pourquoi cette loi, ce que tu disais très justement, enfin il y a tout. C'est pas simplement la loi appliquée, c'est aussi la loi déclarative, enfin il y a...
La loi potentielle.
Voilà.
La loi pénale potentielle, la potentialité.
Absolument, oui, oui. Oui, absolument.
Non, avant... je crois que l'exemple de la tolérance zéro aux États-Unis, the broken windows theory, et l'importation en France, montre exactement ce phénomène. Et se réplique, c'était répliqué en France. Mais aux États-Unis... Broken Windows Theory a été défendu comme venant de la communauté, comme donc la théorie qu'il faut zéro tolérance pour les petites délinquances et le petit désordre. Et c'était quelque chose qui, en fait, était venu du côté libéral américain, comme une réponse à l'incarcération en masse et à la peine stricte. Et c'était intéressant d'entendre ce discours et de voir le point auquel, en fait, c'était exactement comme les lettres de cachet, ça venait de la communauté qui était la plus affectée par ces problèmes. Et c'est intéressant de voir, en fait, que le même discours s'est produit en France et que l'importation, du reste, par quelqu'un dont étonnant, Jacques Donzelot, qui voulait prendre la théorie de la vitre brisée, représentait ce même paradoxe, ce même paradoxe d'essayer de trouver un moyen qui finit par être un élargissement du pouvoir policier, etc., à travers la société, qui donne plus de capacités, de possibilités, d'arrêt constitutionnalisé, en fait. Je crois que c'est vraiment l'exemple parfait de cette problématique.
Très bien. D'autres questions?
Oui.
Non, parce qu'il est...
Allez.
Il est tard, donc je vais vous présenter juste très rapidement un certain nombre de réflexions aussi qui me sont venues. Beaucoup de choses ont été dites sur l'illégalisme. C'est vrai que c'est le cours dans lequel ce concept rentre en jeu. Je pense qu'au niveau de la philosophie politique, ça nous amènerait à faire une distinction qui n'apparaît pas dans le cours, mais entre illégalisme et illégalité. C'est-à-dire essayer de distinguer des séries d'actes ponctuels qui rentrent dans l'illégalité et un illégalisme fonctionnel qui, à ce moment-là, permet en tout cas à la pensée politique, qui n'est pas habituée à penser les choses comme ça, à penser une loi qui est indissociable de son régime d'application différentiel. C'est-à-dire l'idée, c'est que la loi est faite pour ne pas être appliquée partout de la même manière et permettre des complicités entre certaines couches sociales au niveau de la non-application. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, je laisse tomber parce que beaucoup de choses ont été dites. Je remarque quand même qu'il y a un décrochage, je ne sais pas comment le conceptualiser, jusqu'où on peut aller, entre ce que Foucault appelle illégalisme de prédation et illégalisme de fraude. Et à un moment, il parle de l'illégalisme de dissipation. Je ne sais pas s'il se souvient, qu'il y a un statut un petit peu particulier, parce que là, ça touche, j'allais dire, beaucoup plus au mode de vie et beaucoup plus à quelque chose que Foucault tente d'articuler par rapport au capital de Marx, c'est-à-dire une fois qu'on a montré qu'effectivement la force de travail devient de la force de production et qu'au fond le profit de la force de travail est bien supérieur à son coût de reproduction. Enfin, c'est la démonstration marxiste classique. L'interrogation foucauldienne, c'est d'être juste en amont et de poser la question, mais comment est-ce qu'on transforme une force de vie en force de travail ? Et effectivement, tout ce qui est du côté du coercitif, tout ce qui est du côté de la discipline, c'est la manière dont le corps, la vie de l'ouvrier va pouvoir devenir monotone, gris, c'est-à-dire s'adapter aux scansions même de la machine. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, quel est ce nouvel légalisme ? Pour ce qui est de la guerre civile, ce qui, j'allais dire, pour la philosophie politique est aussi frappant, c'est qu'on avait l'habitude, nous, de penser que la pensée que Hobbes, finalement, nous faisait ressentir à chaque fois la possibilité de la guerre civile si quelque chose comme l'État s'effondre. C'est-à-dire qu'au fond, la pensée de Hobbes fonctionnait dans la pensée politique comme ce perpétuel rappel d'une possibilité de guerre civile si quelque chose comme une autorité de l'État s'effrite. Et la démonstration de Foucault, c'est de dire oui, sauf que la guerre de tous contre tous, c'est pas la guerre civile. Et précisément, le rôle de la pensée de Hobbes, c'est de nous masquer la guerre civile, c'est de nous masquer cette guerre civile telle qu'elle est présente derrière la paix de l'État. Et après, le problème qui se pose aussi au niveau conceptuel, c'est la manière dont on peut superposer, j'arrive pas encore à répondre à cette question, ce qu'il appelle la guerre civile et la lutte des classes. J'ai pas l'impression que ce soit exactement la... que ce soit exactement la même chose, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il emploie le terme de lutte des classes. Voilà. Autre chose, je crois qu'il y a une distinction très importante, alors cette fois qui traverse le cours, qui pour moi est quelque chose comme une nervure très importante du cours, c'est la distinction entre le pénal et le punitif. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire la société punitive, ça aurait pu s'intituler aussi justice pénale et société punitive. C'est-à-dire comment quelque chose comme la justice pénale va prendre ses repères de plus en plus à l'intérieur d'une société punitive. Bon, alors moi, pour travailler ça, c'est ce que je voulais vous proposer en quelques minutes. Ça a été dit par Bernard, c'est vrai que j'ai surtout travaillé sur les derniers cours de Foucault, c'est-à-dire je suis plutôt dans l'histoire des dynamiques de subjectivation, des modes de subjectivation, de construction du sujet, qu'est-ce que c'est que... Bon. Alors je suis frappé, par exemple, prendre un repère, comment la dynamique de subjectivation est portée par une certaine question. Je veux dire que l'herméneutique du sujet, c'est la découverte que la question de Socrate, c'est est-ce que tu te soucies correctement de toi-même ? Et que c'est à partir de cette question que quelque chose comme un mode de subjectivation est proposé. Il me semble que précisément on peut articuler la différence entre le pénal et le punitif aussi à partir de deux questions différentes. Et ensuite, il faudra voir est-ce qu'il n'y a pas au niveau du punitif encore deux autres questions actuelles, qui serait la différence entre « qu'as-tu fait ?», qui serait la question du pénal, et la question du « qui es-tu pour avoir fait cela ?». Et au fond, ce qui est du côté du pénal, c'est-à-dire le cœur de métier du juge, pour aller vite, c'est l'articulation d'une sanction prévue par la loi sur un acte. Donc il faut déterminer l'imputabilité, et puis ensuite on peut appeler l'expert psychiatre pour savoir si on peut établir aussi la culpabilité, établir une intention nocive. Et il me semble que, moi c'est comme ça que je lis, parce que c'est intéressant, la différence de lecture, l'espèce de rappel du fonctionnement du système pénal sur le mode beccarien, moi je le lis aussi, c'est une possibilité de lecture, sur le fait qu'au fond le juge peut faire de la résistance s'il s'en tient seulement à cette question. C'est-à-dire s'il s'en tient à la question « mais qu'as-tu fait ?» plutôt que de poser la question « qui es-tu pour avoir fait cela ?» Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que ce que Foucault appelle le pénal ici, c'est quand même l'articulation de cette question. Qu'as-tu fait? Et à ce moment-là, il y a un fonctionnement automatique de du pénal qui fait correspondre telle sanction à telle commission, infraction, comme vous l'avez rappelé. Je crois que le punitif, c'est l'idée qu'on va importer dans le jugement, et pour nourrir même le jugement, d'autres éléments. C'est-à-dire qu'au fond, on va prendre en compte l'histoire des personnes. Alors au début, je crois que la force du cours de Foucault, c'est qu'au départ, pour nous, assez immédiatement, dans notre culture pédagogico-humaniste, j'allais dire, c'est la preuve d'une sollicitude tout à fait louable de dire qu'il faut replacer le geste, finalement, dans la lumière d'une personnalité et d'une histoire et d'un processus, etc. Ça peut nourrir aussi le jeu des circonstances atténuantes. Il me semble que ce qui est intéressant dans ce cours, c'est que Foucault montre que c'est en même temps une brèche ouverte où vont pouvoir s'engouffrer des stigmatisations moralisantes incontrôlées, des jugements de valeur, et où au fond, ce qui peut compter, c'est moins la gravité intrinsèque du crime que justement l'espèce de distance qu'il peut y avoir entre tel ou tel mode de vie. Je crois que c'est ce qu'il appelle le punitif, c'est le moment où on va sanctionner quelqu'un au nom de ce qu'il est, davantage qu'au nom de ce qu'il est. C'est des formules que Foucault reprend par la suite, et ce qu'il montre, c'est qu'au fond, au niveau des lettres de cachet ou des systèmes des quakers, au cœur de l'enfermement du XVIIIe siècle, on enfermait les gens au nom de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire de leur nature vicieuse, et non au nom d'infractions caractérisées. Voilà. Donc ça, il y a le point de cette moralisation, et moi, c'est comme ça que j'ai compris ce passage. Après, c'est des choses que je rappelle très vite, mais qui ont été dites. Il me semble qu'il y a une troisième question que Foucault parvient à articuler
à la fin de mal faire dire vrai, mais aussi dans la notion d'individu dangereux, c'est le surgissement d'une troisième question qui est: va-t-il recommencer? Est-il susceptible de recommencer? Qui peut se comprendre de manière assez différente, c'est-à-dire soit comme approfondissement d'une criminologie, d'une anthropologie criminelle, où finalement on parvient à avoir une saisie telle de la nature d'un individu que quelque chose comme son avenir peut même s'y dessiner. Mais Foucault préfère plutôt y voir, en tout cas à la fin de Mal faire dire vrai, quelque chose comme l'introduction des logiques assurantielles, de la logique actuarielle, de la prise en compte de la rationalité du risque, etc. Mais ce qui est intéressant là-dedans, autour de cette troisième question, c'est que on va toujours juger quelqu'un et peut-être modifier la condamnation à partir de la prise en compte d'un acte possible. Alors c'est autre chose encore que la rétention de sûreté que vous évoquiez, où là on est en dehors du judiciaire même, puisque d'une certaine manière, enfin quand je dis qu'on est en dehors du judiciaire, c'est que
c'est quand même après un procès, après une peine,
oui,
la personne reste en détention,
oui,
mais sur la base de la dangerosité,
oui, c'est sur la base de la dangerosité,
une juridiction qui,
oui, c'est le judiciaire, oui, qui est responsable,
mais c'est du judiciaire extra-pénal au sens où Foucault appelle pénalité la prise en compte de ce que quelqu'un a fait.
Oui, c'est comme ça que c'est défendu constitutionnellement, oui, tu vois, oui, si je veux dire, comme
donc il y a ça, et il me semble pour ce qui est, puisque tu posais la question aussi de l'actualité, ça a été évoqué ce matin je crois par Pierrette Poncelet, c'est la possibilité d'une quatrième question à partir aujourd'hui du traitement des big data, de tout ce que tu travailles aussi, du profilage, de la, qui est: qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais en tant que cette question pourrait être adressée à tous en même temps. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est-à-dire, y a-t-il, s'il y a un passage de Bentham où Bentham dit la perfection de la justice criminelle, c'est de pouvoir intervenir avant le crime. C'est Minority Report aussi que vous avez évoqué. Et donc, il me semble que cette quatrième question nous fait sortir, j'allais dire, du qui es-tu et même du risque de récidive sur la base d'un premier acte. Elle nous fait sortir d'une anthropologie parce qu'on est dans une désindividualisation, d'une certaine manière, puisqu'il ne s'agit pas d'approfondir une nature humaine jusqu'à essayer de savoir si quelqu'un pourrait recommencer, mais simplement de mettre en série une série d'actes de personnes qui peuvent être repérées d'ailleurs à partir de traces numériques. C'est-à-dire, on peut constater que si quelqu'un fait tel ou tel trajet, consulte tel ou tel site, a tel ou tel mode de consommation, eh bien, il devient automatiquement, ou enfin, selon une loi, automatiquement, pour autant que ça puisse être défini, un criminel. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, j'allais dire, le problème, ça n'est pas de poser la question « qui es-tu ?», mais simplement de repérer une individualité comme représentant d'un certain profil criminel. C'est-à-dire, la question qui est posée, c'est simplement à quelle série est-ce qu'on appartient, à quel profil. Je veux dire, de la même manière que ça s'est fait directement, automatiquement sur nos ordinateurs, que dès qu'on fait des recherches sur Internet, on nous fixe un profil de consommateur idéal, ça vous le savez, c'est-à-dire dès que vous faites des recherches, ben de la même manière, on peut envisager aussi des profils de criminels, désindividualisation et recentrage aussi sur l'acte, mais un acte cette fois virtuel, c'est-à-dire c'est une espèce de ouais, c'est quelque chose de très curieux. C'est-à-dire que la question, c'est ça, c'est adressée à chacun de nous, qu'est-ce qu'il pourrait faire, nourri par le principe de précaution dont on n'a pas parlé, parce que ce qui est intéressant dans le principe de précaution, c'est qu'il oblige à l'intervention à partir du moment où un risque est possible. Sur une salle comme celle-là, je pense que la possibilité pour chacun d'un passage à l'acte, oui, idéalement, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me sens pas très rassuré. Je vous remercie.
Bon, voilà. Eh bien, je pense que sur ces mots, c'est un bon endroit pour terminer notre belle journée d'études aujourd'hui. J'étais vraiment ravi d'avoir pu rassembler des philosophes, des sociologues, des historiens, des magistrats, des pénalistes, des ethnographes autour de cette question pour commencer à lire, à penser, et à réfléchir et à trouver des pistes de recherche que nous continuerons ensemble, j'espère. On a donc une réception au Chicago Center. Alors, je serais ravi de vous retrouver là-bas dans 5 minutes. Hein? Ok. Et je vous remercie tous. Merci. Merci à toi.